14h à 15h.
Le temps d'un gin-to, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gin-to et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un gin-to, tu veux pas manquer ça.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
J'ai dépensé toute ma paye, pas j'suis trop séquelle. Des flashbacks la veille dans mon autre vaisselle. J'ai compté les moutons plus que 800 fois. La nuit c'est trop long dans mon lit sans toi. Speeding à 70 dans une zone de 30. Même si ma tank est vide comme mon compte de banque. Parti en retard, quelques années sur le tard. Toujours aussi pressé d'aller.
Bienvenue tout le monde à Conduite Antisportive, édition Ligue du Vieux Poil.
Poil.
On est le 30 novembre 2022, dernier jour de novembre.
On est le 30 novembre, ouais.
Je suis accompagné, comme chaque mercredi, de mon cher directeur général et personne avec qui j'essaie de devenir ami, mais ça marche pas trop
non,
fort.
Gabriel, c'est tough en maudit. Je ne veux plus d'amis. Mon compte est complet. Je ne prends plus de demandes.
Et notre cher Félix-Antoine.
Oh, haïssable à souhait. Ah. Ouais. Je me sens haïssable en plus de l'habitude aujourd'hui.
Alors,
ah ouais, hein?
Ah oui, j'ai une petite coche d'haïssable en plus. Je me sens morveux aujourd'hui.
Mesquin, hein? Taquin.
Oh, moqueur. Exactement. Non, pas moqueur. Non? Ça sonne trop gentil, moqueur.
OK.
J'ai vraiment le goût d'être haïssable.
Il est encore temps de changer d'idée.
J'ai le goût qu'à la fin du show, vous deviez vous tenir l'un l'autre avant de me donner une claque en visage.
Je peux t'en donner. Il n'y a pas de stress. Si t'en magasines, j'en ai à rabais. Les restants du Cyber Monday.
J'adore.
Alors oui, parlant de Cyber Monday, Thanksgiving, il y avait du sport en masse la semaine dernière à suivre encore cette semaine avec, bon, que ce soit le Canadien, la Coupe du monde de soccer qui bat son plein en ce moment.
Tout à fait.
Tout à fait. On a des scores qu'on va pouvoir vous donner en direct, là, des groupes, un groupe qui va se régler... en direct, sous nos yeux. Et aussi, on a notre cher FAA qui va nous faire une petite analyse de classement Thanksgiving LNH. Et on a encore un unboxing cette semaine.
Oui. Ah oui, je suis tout content.
Alors, j'ouvre un paquet tout à l'heure de l'édition 2022-2023 de Tim Hortons.
Et là,
quart de hockey.
Je m'éloigne 5 secondes du sport. Parce que je vais faire la déclaration qui est importante quand tu donnes ce genre de cadeau. Parce que c'est vraiment Gab qui est en train de compter. Non, mais c'est que ça me fait toujours rire. Puis on a eu le même talk. Gabriel m'a amené manger du McDonald's parce qu'il a perdu un pari avec moi une fois. Et on a eu le même talk. Quand tu donnes un cadeau à d'une valeur techniquement anodine, mais qui a une possibilité de rapporter énormément d'argent à la personne.
Ben c'est ça.
Il y a toujours une espèce de malaise. Mettons que tu ouvres la carte recrue, je sais pas, de
Connor McDavid
qui vaut 600-700 $.
Je pars en courant et on ne se revoit plus jamais.
Ben c'est ça. Fait que je t'annonce avant même l'ouverture que peu importe le contenu du paquet, t'appartient à 100%. C'est une discussion à avoir. Parce qu'il
m'avait... Oui, tout à fait.
Parce que tu m'avais acheté, c'est ça, du McDo pendant le Monopoly.
Ouais.
Fait que là, on disait, là, si je gagne le char, on fait quoi, là? Juste c'est d'être ça. Sûr, là, vu que t'as payé le McDo, mais que c'est moi qui gagne le char. C'est une discussion importante.
Tu as payé un McDo, tu m'as jamais payé de McDo.
Ouais, mais c'est parce qu'il faut que tu l'humilies publiquement avec un pari.
C'est bon.
C'est ce que j'ai fait.
C'est bon. Sur les élections provinciales. Hein?
Oui, exactement. C'est bon. Fait que là, c'est moi qui est en train de se faire humilier par un pari, par exemple.
Ah, ben ouais!
C'est moi qui risque de manger à claque, là.
Puis je vais me faire un plaisir de te le rappeler plus tard à l'émission quand on parlera de hockey. hockey. Hein?
Ah, c'est bon.
Ben, on se rappellera qu'on a pris des prédictions sur les trophées, hein, les gagnants aux trophées à la fin de l'année.
Puis certaines de mes prises de parole vont être regrettées, j'ai l'impression.
Tout à fait. Tout
on
à
les
fait.
Mettra en ID d'émission, là, pour être certain de s'en rappeler plusieurs années. Mais enchaînons, on parle de hockey pour commencer. Hein, une petite mise en bouche. On a le Canadien hier, 4-0.
Ouais.
Changement de sujet. Prochain match.
C'est-tu là qu'on fait rentrer ta fille et qu'elle utilise le seul mot?
Oui, oui, elle pourrait utiliser le seul mot qu'elle sait utiliser.
C'est bon.
Patine!
On parle de numéro 2 ici. Alors, mais quand même, faut le mentionner, là, le Canadien qui, oui, en reconstruction, donc va avoir des performances. Va avoir des performances de cette ampleur.
Ben oui, c'est normal. On s'attend un peu à ça, là, que le Canadien puisse avoir performance en dedans de scie. Puis quand t'es vraiment pessimiste comme moi, puis tu t'attends à rien de bon de cette équipe-là, t'es juste content de les voir perdre pour avoir un meilleur choix au repêchage.
Les vrais fans savent.
Ben oui. Mais ça, c'est tellement weird une année comme ça pour comme fan de sport, parce que tu peux pas t'empêcher d'être heureux quand ton équipe gagne.
Tout à fait.
Puis malheureux quand elle perd. Mais quand tu y penses de façon réfléchie, tout ce que tu veux, c'est que le Canadien perde. Puis
on radote, on le répète, mais chaque défaite est une victoire.
Exactement, t'sais. Exactement. C'est mais c'est je ça peux le pas mantra m'empêcher quand je vois Cole Caulfield sourire après un but d'être heureux, heureux comme ça peut pas, ou Kirby Dach qui demande à la foule des Blackhawks du
temps. Oh, oui. Au retour à la maison, hein.
Mais ça, c'est-tu pas beau, hein? Un moment là.
Content.
Un moment qui se met dans un film.
Oh ça. Oui. Ah, Disney on Ice, hein?
Oui.
Un but en fusillade dans un film. Ça compte même pas à sa fiche. Mais
contre les Blackhawks.
Non, mais c'est le moment où il se fait huer par son ancienne équipe, par ses anciens fans. Puis, oh, m'avez-vous. Qu'est-ce que vous disiez? J'entends plus. J'ai rien entendu.
Mais faut quand même se rendre à l'évidence qu'en plus, le calendrier du Canadien va devenir de plus en plus difficile là, d'un point de vue d'adversaire, mais aussi d'enchaînement des matchs des jeunes défenseurs, des joueurs. Il va sûrement avoir des blessés aussi. Là. On est en santé, mais j'imagine qu'il va y avoir des blessés qui vont s'ajouter. Alors,
la conférence de l'Est est incroyablement plus difficile que l'Ouest. Là. Ça n'a pas de maudit bon sens. L'enfer. Le Canadien serait en série dans l'Ouest, je pense, où il est à un point de
l'Est. On n'a pas vu ça souvent de notre vécu, une association de l'Est qui est meilleure que celle de l'Ouest.
On a tous le même âge, puis ça a été la domination de l'Ouest.
22?
26, là.
Moi, j'ai 29, là, en tout cas.
Bon, OK. Mais jeune, dans les 10-15 dernières années, ça a été l'Ouest, là, de loin, qui était supérieur, mais en ce moment...
Surtout la division Atlantique. Là. Boston, Toronto, Tampa Bay, Détroit qui est fabuleux cette année, les Panthers qui ont de la misère à sortir des victoires de leur chapeau. Après ça, t'as Montréal, Buffalo, Ottawa qui est le dernier tiers. Là.
Pourtant, quand tu regardes la qualité, pas de Montréal, là, mais les Sabres ont eu un début de saison phénoménal, ce qui pourrait revenir.
Ils ont en ce moment le meilleur trio de la Ligue là, en termes de statistiques avec Tage Thompson, Jeff Skinner puis Alex Tuch. Ce trio-là ne dérougit plus, ça n'a pas de Saint-Christie de bon sens à quel point ils sont forts.
Jeff Skinner, j'ai l'impression qu'au début de saison, il prend une pièce de monnaie, il lance, puis il dit « Est-ce que je suis un boss cette année ou je suis un des meilleurs joueurs de la Ligue? »
Est-ce que je vais scorer 40 goals ou...
Mais où est-ce que je vais être un gars à 10 points de l'année?
Historiquement parlant, quand Jeff Skinner joue contre le Canadien plusieurs matchs, ça lui donne confiance.
Il y a des joueurs comme ça.
Exactement, le Canadien est l'une des équipes contre laquelle Jeff Skinner est extrêmement confiant. Et c'est la stat est assez...
Éloquente.
Est assez éloquente, oui. Merci pour la petite passe sur la palette. Si on est tous des amis pour les mots. Mais c'est une moyenne là, de quelque chose comme 2,8 points par match contre le Canadien pour Jeff Skinner, ce qui est énorme.
Je m'identifierais à Piqué Subban dans l'équipe. Je vous fais des passes à palette, mais vous avez goût de me donner une taloche dans le vestiaire.
Ben oui, soit tu fais une passe à palette ou un coup de poignard dans le dos. C'est comme pas d'entre-deux. T'es jamais à nos côtés pour me donner une bonne bine sur l'épaule. Non, c'est dans le dos.
Un ou l'autre.
Non, c'est ça, exact.
Faut que je m'achète d'ailleurs le nouveau livre de Pierre Gervais.
Oui, semblerait-il qu'il y a beaucoup de petits coups de couteau dans le dos, justement.
Non, justement, on dit que ça a été un peu rapporté comme ça, mais que c'est un livre majoritairement d'histoire tripante positive.
Sur le vestiaire.
Exactement. Mais évidemment que les premières choses qui vont sortir, c'est le croustillant.
Ben oui, le fait que Dominique Ducharme n'aurait jamais eu son vestiaire, que Marc Bergevin est un ado... Que Piqué-Souban et Max Pacioretty étaient détestés.
Ouais, semblerait-il.
Piqué-Souban, c'était qu'il gossait, puis Max Pacioretty était détesté. Ça, ça m'a surpris à mot à dire.
Après, que Subban gosse tout le monde, c'est pas vraiment étonnant. Le gars est exubérant puis flamboyant, contrairement à l'archétype d'un joueur de hockey ouais, plate à mourir, là, tu sais.
Exact.
Puis qu'il est Subban dans un club de la NFL, il passe.
Il passe comme un petit garçon tranquille.
Ouais, c'est ça, tu sais.
Il y a comme l'espèce de ligne, là, de sport de exubérant à traditionnel. Ouais. Tu pars de la MLB. Tu t'en vas après ça à NHL, NFL puis NBA.
Ouais, exactement.
Les joueurs de soccer se situent où?
Est-ce que tu considères vraiment la MLS comme une ligue majeure?
Non, mais...
peu importe les grandes ligues du sport
ben vous
international.
Le diriez, parce que moi, est-ce qu'ils sont exubérants, les certains, joueurs de soccer?
Ouais, ça dépend de la nation, clairement.
De la position de la nation. Ouais. C'est certain qu'un défenseur central... l'exubérance d'un chez Weber.
Mettons un généralisme. Et est-ce que le soccer, vous le placez où? Là? Est-ce que vous le placez au niveau des joueurs sont plus exubérants? Est-ce qu'ils sont plus exubérants que les joueurs de baseball?
Oui.
OK.
Oui,
ils sont plus exubérants que les joueurs de la Ligue nationale de hockey?
Oui.
Clairement.
Que la Ligue nationale de football?
Non.
Moins. C'est ça. C'est peut-être dans le ventre mou. Là.
C'est le centre.
Oui, exactement.
C'est l'extrême centre, comme tu disais.
Et comme Gabriel disait, ça dépend beaucoup de la nation, de la position. Est-ce que tu es un joueur qui marque beaucoup de buts?
Ouais.
Tu sais, en Europe, souvent, il y a souvent aussi des enjeux politiques que les joueurs vont célébrer par rapport à ces enjeux-là. Alors, c'est ça. J'ai l'impression que les joueurs de soccer sont un petit peu plus. Connecté avec leurs sentiments que les joueurs de hockey, ça c'est
pas dur à battre.
C'est pas dur à battre.
Même chose pour une nation qui est dans une situation géopolitique difficile. Le sport est un sapristi d'exutoire au sens où les fans vont encore plus triper sur leurs équipes nationales parce que le reste du pays.
Parlons-en à Milan Borjan, le gardien du Canada qui joue pour l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie.
Ouais.
Milan Borjan est peut-être le joueur le plus populaire dans l'équipe canadienne, même pas Alfonso Davies, parce que c'est le gardien de l'Étoile Rouge de Belgrade
depuis plusieurs années,
et c'est peut-être le meilleur joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade également.
Ah ben, tabarouette, vous m'en apprenez. Parlant d'identité nationale, c'est vraiment juste, c'est une info que je pitche, puis c'est peut-être pas vrai, là, fait que faites vos recherches, là, j'insiste là-dessus, là, mais j'ai vu ça passer sur Twitter, comme quoi l'équipe nationale de l'Iran pourrait se faire arrêter à son retour au pays.
On pourrait rentrer dans le sujet, mais c'est quelque chose que, personnellement, je ne me sens pas à l'aise d'aborder.
Non, c'est ça, mais c'est particulier.
C'est très particulier, puis j'ai l'impression que l'histoire va changer plusieurs fois avant qu'elle rentre au pays.
C'était juste une pinote que je le lançais comme
ça. Oui, mais c'est le mondial, la politique. Le sociopolitique, l'économopolitique, tout.
Puis souvent, c'est deux choses que les pays, entre autres européens, ne jurent que par le foot et la politique. En Italie, n'importe quel bonhomme va dire que tout ce qui m'intéresse, c'est la politique puis le foot. T'sais. Le reste, on s'entorche. Ironiquement, l'Italie ne s'est pas qualifiée. Mais... Donc là, on se concentre sur la politique.
Et peut-être pour finir sur le sujet de l'Iran, ils ont joué contre les Américains hier. Ouais. La journée avant le match, il y avait les conférences de presse mixtes, c'est-à-dire avec tous les médias. Certains joueurs américains se sont fait poser des questions sur les positions politiques des Américains. Mais ils sont là pour jouer au foot, là. Ils sont là pour jouer au soccer. Là. Ils ne sont pas du tout des experts en politique étrangère.
C'est peut-être une chose quand c'est ton propre pays.
Ça va loin.
Là,
mais... Et ce n'est pas les directeurs des communications des équipes qui gèrent ces conférences de presse-là, c'est la FIFA. Ouais. Alors, ça devient difficile à. Ça devient très, très, très difficile à gérer.
Le trois quarts du club américain ne joue même plus aux States, en plus. Là. Christian Pulisic est en Allemagne depuis des années.
Leur capitaine Tyler Adams est en Allemagne depuis plusieurs années.
Il y a beaucoup
de
joueurs en Allemagne, entre autres.
Alors c'est voilà.
Voilà.
Mais on peut enchaîner sur le mondial tant qu'à en parler.
Avant, parce que là, le Canada est éliminé officiellement du mondial, on va écouter No Bro et la tune Bye Bye Baby. Donc, bye bye le Canada. Vous écoutez Conduite Antisportive sur les ondes de Chiz 94.3.
I'm C'était No Bro et Bye Bye Baby sur les ondes de Chiz 94 pendant qu'on essaie de ramener le micro à Alex Fortin.
C'était, voilà. C'était une belle hymne de salon funéraire.
Tout à fait. Vraiment.
Ça défoule.
C'est un petit peu de la manière qu'on se sentait après le match Canada-Croatie.
Ouais, c'est sûr que tu veux tout casser ou noyer ta peine dans un fluide quelconque.
Moi, je faisais mon sapin et j'essayais d'ignorer que ça existait. Il y avait la game en background, puis après le troisième but des Croates, j'ai fait oh, on va mettre autre chose.
On va mettre Marco Bublé.
Ouais, c'est ça. C'est okay. Le sapin.
Qui sort de sa caverne de Noël.
Mais oui, mais oui. On te salue, Michael. Alors, on revient au match Canada-Croatie, s'il vous plaît, messieurs, oui. Un petit peu de sérieux.
Toi!
Parce que ce match, je l'ai encore sur le cœur, surtout que j'ai la nette impression que c'est un rendez-vous manqué.
Il est pogné dans l'œsophage, hein, ce match-là. Il est comme en moton, ouais. Là.
Mm. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Gabriel? Là?
Moi, j'ai fait 80 km pour aller voir ce match-là. Hein? Dans mon patelin. Ah ouais? Je suis retourné voir des amis d'enfance pour écouter le match. Puis, ben, on avait le goût de broyer après 45. Là.
Faisons un peu le résumé du match, oui. Peut-être pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir du même œil que nous.
Non.
Mais le Canada a pris les devants à la deuxième minute de jeu.
Le but le plus rapide du mondial jusqu'à maintenant.
Oui. Sur une passe savante de Tejon Buchanan, oui. À Alphonso Davies, qui marque le premier but de l'histoire du Canada chez les hommes à la Coupe du Monde.
Moment historique.
Historique. Oui. Beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et on sentait que le Canada avait un coup à jouer dans ce match. Et après 10 minutes, plus rien. Explique-moi un petit peu comment as-tu vu ça de ton côté.
On vient d'en parler hors d'onde. Clairement, ce match-là fut mal géré. D'un point de vue tactique, il n'y a pas photo. Qu'on prenne le résultat à la fin ou qu'on ait écouté le match de A à Z, le Canada, finalement, ce but-là fut leur pire ennemi, si on veut, parce qu'on a voulu... On a fait une fausse tactique de park de boss, la fameuse stratégie qu'on recule à l'arrière puis on ajoute un défenseur de plus. Et on essaie de bloquer un bloc hermétique au milieu, dans plein axe. Là, ça, on l'a pas fait. Il y avait une tranchée immense entre les attaquants et la défense. Puis, ben, c'est peut-être aussi un choix d'alignement, choix de joueurs. On a voulu donner à Atiba Hutchinson une dernière chance de se faire valoir parce que c'est une légende du soccer canadien. Probablement que c'était pas l'homme de la situation contre un club qui relance très vite comme la Croatie. On pensait peut-être aussi que la Croatie était pas aussi en jambes. Visiblement, ben on s'est fait avoir du côté du Canada.
Et pour imaginer aux gens, pour que vous compreniez bien, le Canada jouait à deux milieux de terrain, ouais. Alors que la Croatie jouait à trois milieux. Et de ces trois milieux-là, deux sont dans le top 10 mondial des meilleurs milieux de terrain.
Luka Modric est le meilleur joueur du mondial, ou presque, là, en ce moment. Puis,
et Kovacic a retrouvé ses jambes des belles années.
Des années du Real.
C'est, ouais. C'est assez incroyable de le voir jouer en ce moment. La transition...
Ça va vite.
Était très, très rapide. C'est la plus rapide qu'on a vue là, depuis le début du mondial, vraiment. Au niveau de la transition, lorsque le Canada perdait le ballon bêtement. Et on va le dire, c'était très bêtement, souvent. Mm-hmm. Mais c'est ce qui arrive quand tu as trop de joueurs offensifs à l'avant qui essaient de se lancer, d'aller marquer un deuxième. Comme Gabriel l'a dit, ça devenait... il y avait beaucoup d'espace dans leur dos que les deux milieux de terrain, Hutchinson et Eustachio, n'avaient pas les armes pour boucher. Et le Canada a pris l'eau là, après la 30e minute. Là, assez rapidement.
Fallait appeler Calinette puis l'envoyer au 14 au plus.
Mais
au plus
c'est,
vite,
c'est à ce moment-là que j'aurais aimé voir Erdman colmater cette brèche-là parce qu'il avait les joueurs sur le banc et la tactique pour le faire.
N'importe quel entraîneur est réticent de faire un changement aussitôt dans le match. On attend souvent à la demi. Pour un changement aussi fatidique qu'un milieu de terrain, là, effectivement. Il aurait dû le faire. Surtout qu'Eustachio n'est pas reconnu pour ses talents et son marquage défensif. C'est un numéro 10 là, dans un excellent club, Eustachio, comme à Porto, justement. T'sais, c'est un milieu créateur offensif, organisateur de la relance. Mais c'est pas lui qui va défendre, qui va revenir en défense et va récupérer des ballons. C'est pas un box-to-box, vraiment pas. T'sais.
Non, c'est ça exactement. Alors, peut-être de faire rentrer Piet, qui n'a pas les qualités physiques pour jouer dans ce match-là, mais est capable de lire le jeu et d'intercepter des ballons, de colmater une brèche. On avait besoin d'un silicone, finalement. On n'avait pas besoin d'un joueur de soccer. Alors,
manquait de gigolo. c'est ça.
Alors de faire rentrer un profil comme Samuel Piet, peut-être, comme Marc-Anthony Kay.
Oui, on en a parlé aussi.
Ou des, tout pour donner un deuxième souffle à tes deux milieux de terrain qui en avaient grandement besoin. Ils avaient besoin d'aide. Ouais. Ils l'ont pas eu. Donc, bon, ça donne le résultat qu'on a vu.
C'est le temps des questions du néophyte.
Oui.
C'est moi, ça. Bon, premièrement, là, il reste encore... Là, on sait, ils sont éliminés, le Canada. Oui. Il reste encore un match. Est-ce que vous croyez à une possibilité de la première victoire de l'histoire du Canada à la Coupe du Monde? Ou on va être un peu, bon, écrasé?
Ah, ça va être difficile parce qu'on croyait que le Maroc était l'équipe faible de ce groupe. Oh, que ce n'est pas le cas.
Non.
Oh, que ce n'est pas le cas. Ils ont complètement dominé la Belgique. Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec la Belgique, en fait. Là.
En même temps, le Canada aussi a fait ce qu'ils voulaient avec la Belgique.
Ça nous montre un petit peu que peut-être la Belgique est l'équipe la plus faible de ce groupe.
Oui, c'est ça, ce qui est
assez surprenant, mais ça, c'est la vieillesse. Puis je pense qu'on commence à le sentir à notre âge aussi. Pourquoi?
Puis Kevin De Bruyne l'a mentionné haut et fort, hein, que son club était trop vieux.
Les... Exactement. Et le Maroc sont très athlétiques. Très athlétiques. Ils ont des milieux de terrain là, capables de contrôler le jeu. Alors, pour le Canada...
Techniquement, c'est le meilleur club de ce groupe-là, là, de loin, là, en termes de qualité technique, balle au pied. Ouf.
OK. Bon,
alors, demain, il y a deux options. Parce que oui, c'est le dernier match du Canada au Mondial, c'est officiel. Est-ce qu'on fait jouer les remplaçants pour donner un anan à tout le monde? Ou est-ce qu'on met encore la meilleure équipe avec une tactique pour aller chercher une victoire contre le Maroc? Moi, j'irais plus pour la deuxième option. Ouais. C'est la Coupe du Monde, que tu sois éliminé ou non, c'est pas l'endroit où tu donnes des cadeaux, c'est l'endroit où tu te positionnes mondialement.
Non, puis on a encore une chance d'entrer dans l'histoire.
Ben oui,
pour première victoire, le Canada, chez les hommes, n'a jamais gagné de match à la Coupe du Monde.
OK, voilà. Deuxième question de Néophyte. On l'a mentionné très, très vite avant d'aller en pause. Mm-hmm. Puis c'est une des questions de Néophyte, je vous avais déjà parlé la dernière fois. Canada, pourquoi, après avoir battu les États-Unis, le Mexique, était plus bas qu'eux dans le classement mondial? Vous m'avez dit, bon, comment ça s'organise? Effectivement, le Canada devrait peut-être être un peu plus haut. Est-ce que le fait que le Canada n'était pas plus haut dans les classements, parce que tu le disais, si on est dans le groupe des États-Unis, à la place des États-Unis, parce que de ce que j'ai compris, là, les groupes sont tirés, bon, les meilleures équipes sont tirées pour être séparés, puis après ça, le deuxième groupe se sépare. Mm-hmm.
Et ainsi de suite.
Donc nous, on a été mis comme l'équipe faible.
Avec les forts.
Avec les forts, quand on aurait peut-être dû être une troisième ou une deuxième équipe, comme les États-Unis l'ont été.
Exactement.
Puis c'est ce qui aurait coûté le mondial au Canada.
Avoir...
Ben, le mondial, il aurait pas gagné la coupe, là, peut-être une qualification, là. Comprenez-moi bien.
Ben, dans le groupe des Américains, j'ai la certitude, en fait, le Canada aurait passé à la ronde des 16.
C'était ça.
Ouais. Parce que le Pays de Galles n'a pas montré grand-chose, l'Iran n'a pas montré grand-chose. Tout ce que tu as à faire, c'est parquer l'autobus contre l'Angleterre et espérer un résultat, comme les Américains ont fait.
Ah, tout à fait.
Ils ont joué, là, ils ont joué du soccer là, serré, tissé serré contre les Anglais.
Ça finit quoi, 1-1, 0-0?
Ça finit 0-0.
0-0, ouais.
C'est un match plate, personne ne veut voir ça. Les Américains aux États-Unis ont chialé que le soccer, c'était donc bien plate des matchs comme ça, mais... Tu dois jouer le match comme il se présente devant toi et c'était le résultat que tu devais aller chercher. Ils l'ont fait. Alors, ils méritent de passer à la prochaine ronde. Bravo à eux. Mais j'ai l'impression que le Canada, dans ce groupe-là, en jouant de la bonne manière, aurait eu la chance de passer à la ronde des 16.
Dernière question de Néophyte, puis après ça, je vous laisse parler de choses sérieuses. Le Canada, est-ce que c'est une équipe qui est jeune et que dans 4 ans, tu te dis là, ça va être une année réalistement beaucoup plus sérieuse pour le Canada ou c'est une équipe qui était à maturité puis c'était vraiment l'époque de la génération dorée?
Je pense que la qualité sur le terrain sera similaire dans 4 ans.
Okay.
Au sens où, oui, certaines vieilles gardes de l'équipe canadienne qui ne seront plus là, évidemment, dans 4 ans. Par contre, les jeunes qui sont les vedettes de ce club-là ne seront pas nécessairement meilleurs dans 4 ans, sont dans leur prime time en ce moment.
Okay.
On parle à Jonathan David, Alphonso Davies. Ils vont avoir plus d'expérience.
C'est ça, l'expérience, c'est pas à oublier. Là.
Certes. En termes de qualité, je pense pas que ça soit...
Ben, ça dépend, parce que quand tu regardes où le Canada était il y a 4 ans, on était nulle part.
Ouais,
alors, c'est sûr que les plus grandes améliorations se dénotent plus facilement à l'œil parce qu'on était tellement bas que là, d'arriver à ce niveau-là, l'amélioration est fulgurante. Mais quand même, dans 4 ans, on ne sait pas qui on peut découvrir, on ne sait pas quel joueur va s'amener.
Il y a peut-être un jeune de 17 ans en ce moment.
Ismaël Koné n'était pas là quand le Canada a battu le Mexique à la même date l'an dernier.
Non, c'est ça.
Okay.
Et là, il était presque partant au Mondial. Donc, on ne sait pas comment les joueurs vont se développer, qui va remplacer les Vitoria à la défensive. Sûrement quelqu'un va venir remplacer Miller aussi en défensive centrale. Est-ce que je ne sais pas moi, est-ce qu'un Liam Miller qui joue en Suisse va être rendu à un autre niveau? Est-ce que, tu sais, il y a plein de questions comme ça qu'on ne sait pas. Okay. Puis c'est des cycle. Et le Canada, justement, se prépare à ce prochain cycle-là parce qu'on a la Gold Cup l'année prochaine, qui est comme l'Euro, mais pour la zone CONCACAF.
Okay.
Et pourrait participer à la prestigieuse...
Comambol.
Avec la Comambol, ouais. Avec la Copa América.
Ouais. Ça, c'est avec les pays d'Amérique du Sud.
Exactement. Il serait l'équipe invitée là, à cette prestigieuse coupe.
Parler en ce moment.
Alors, en termes d'expérience, hein, de matchs difficiles, parce que c'est pas en jouant dans ta zone CONCACAF que tu as plusieurs matchs difficiles, c'est à jouer contre des nations européennes, des nations de l'Amérique du Sud,
ouais.
Où là, tu te fais challenger, où la tactique devient ton meilleur ami aussi. Où le Canada doit vraiment aller jouer là. Dans
j'ai
les...
dit que c'était la dernière, mais j'en ai une autre qui vient de me popper. John Erdman a confirmé qu'il voulait rester avec le Canada jusqu'en 2026, donc la prochaine Coupe du Monde. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Ben, peut-être qu'il sera plus là dans 4 ans non plus.
Ben, en tout cas, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est ça.
Peut-être lui veut rester, peut-être. Moi, j'essaierai quelqu'un d'autre. J'irai chercher peut-être un sélectionneur international qui a d'autres type d'expérience, parce que Erdman, oui, a fait beaucoup avec le soccer canadien, a amené l'équipe féminine à un autre niveau.
En fait, il faut respecter que c'est incroyable qu'il a réussi à faire.
Certes, son mandat, il a réussi là, haut la main, mais je pense qu'en tout cas, pour le développement justement de certains joueurs, certains potentiels, pour les amener justement à un autre niveau, j'irai chercher...
Faut pas oublier que c'est un motivateur, hein, John Erdman. Est-ce que des fois, le message ne passe plus à un certain moment
c'est
donné? Est-ce
aussi.
Que tu deviens... Est-ce que les joueurs vont se lasser un petit peu de son message? On le sait pas, mais pour l'instant, moi, je le garderai. Il y a aucune raison de le mettre dehors.
Ouais.
On a toutes les raisons de le garder. Et je pense qu'il est allé chercher le mérite d'entraîner cette équipe-là au Canada en 2026. Parce que pour ceux qui ne le savaient pas, le prochain mondial est organisé au Canada et aux États-Unis ou au Mexique conjointement. Deux villes canadiennes, on va avoir des matchs et non Montréal parce que bon, c'est le Québec et on n'en voulait pas. Alors, ils seront à Toronto et à Vancouver, mais néanmoins, le Canada qui jouera à la maison pour cette Coupe du Monde-là. J'ai l'impression que l'équipe va avoir pris un autre step, moi, personnellement.
Je nous le souhaite.
Ah, ça va être intéressant.
Et reste à voir si John Erdman n'aura pas d'autres offres aussi à l'international.
Parce que lorsque le Canada s'est qualifié, John a eu plusieurs offres pour entraîner en Angleterre.
Okay.
Que ce soit en deuxième division ou...
Les entraîneurs d'équipe nationale sont pas comme, mettons, les entraîneurs des Jeux olympiques au hockey, entraîneurs dans un club et national?
Non, c'est une job à part entière.
Ah, OK.
Ouais,
c'est bon.
Voilà.
Certains ont déjà essayé de faire les deux. Mais c'est des énormes charges de travail, de dépistage à travers le monde. C'est un sport qui, selon moi, est beaucoup plus complexe à préparer qu'un match de hockey aussi. Puis rien enlever
au
sport
là,
ou l'autre.
C'est ça,
exact.
Il y a bien quelqu'un qui n'a pas de biais, c'est toi. Là.
Est plus long à préparer qu'un match de hockey. Puis aussi pour les relations que tu gardes avec les joueurs. Parce que tu sais, il y a beaucoup de binationaux au soccer, des gens qui ont plusieurs nationalités. Donc d'aller convaincre de venir jouer pour toi, de monter
c'est
un programme.
Ismaël Koné, je pense.
Ismaël Koné est un exemple parce qu'il aurait pu jouer pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne savait peut-être même pas qu'Ismaël Koné existait. mais il y a eu des cas comme Jonathan David qui avait un passeport américain. Il y a eu des cas comme. C'est sûr qu'Alfonso Davies avait un passeport du Liberia, donc je ne crois pas qu'il serait allé jouer pour le Liberia, mais. Il y a des jeunes comme un Cole Ochoa qui joue en Espagne en ce moment qui pourrait jouer pour les Américains aussi. Bon, a participé aux deux derniers camps du Canada en tant que Canadien.
Okay.
Donc, c'est des histoires comme ça, là, des joueurs qu'on surveille et qu'on veut convaincre de venir jouer pour nous.
Avec cette expérience-là du Canada, justement, on a quelques joueurs qui ont des doubles nationalités qui pourraient décider de faire la transition. T'en as un en note, Alex, dont tu m'as parlé la semaine dernière, un défenseur...
Qui est canadien, mais qui joue pas pour le Canada?
Non, exactement, puis qui serait un partant.
Le Canada est bon, fait que je vais jouer pour eux.
Exactement, il y a un Fikayo Tomori, en fait, pour situer les gens. Tomori a joué pour les Canada U20, U18 aussi. Il est né à Calgary, mais a été repéré par un club anglais à un âge assez jeune. Donc, est allé chercher un passeport anglais pour ses années passées-là en tant qu'adolescent et a choisi de représenter l'équipe anglaise.
Okay.
Maintenant, Fikayo a joué pour Chelsea. Il est maintenant à l'AC Milan.
Mm-hmm.
C'est un des meilleurs défenseurs, je te dirais, là, dans les 5 meilleures ligues en Europe.
Mais
il n'a pas été sélectionné pour la Coupe du Monde par l'Angleterre.
Non, c'est ça.
Oh! Oh.
Alors, le Canada, avec le jeu qu'ils ont montré, avec un petit peu le hype qui est alentour de l'équipe, j'ai l'impression qu'un Tomori pourrait être tenté de changer d'idée. Parce que tu peux changer une fois si tu n'as pas participé à des tournois majeurs, c'est-à-dire l'Euro. La Coupe du Monde, la Gold Cup, ces tournois-là qui rassemblent les meilleurs. Tu peux changer d'équipe à ce moment-là.
Ah, intéressant.
Et ce serait toute une nouvelle. Ce serait très bien accueilli comme nouvelle.
Très intéressant.
Pour John Herdman et la
sélection.
Justement remplacer
Steven Vittoria.
Qui, ouais, c'est ça.
Donc, rappelons que Tomori est né à Calgary, en plus. Hein. Un petit traître! Un autre petit traître!
Un petit traître!
On s'en va en bloc publicitaire, les garçons, oui. Si vous le voulez bien. HS94, vous écoutez l'édition du vieux poil de conduite anti-sportive.
Sur une distance de 20 mètres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche! Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Vous écoutez maintenant LSDJ 7, présenté par Lex. Explorons ensemble la musique électronique dans un DJ set d'une heure en continu. Retrouvons-nous tous les derniers dimanches du mois sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tout le monde parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans La Mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES. C'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mer climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le message, appuyez sur le 1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter.
Allô, chérie, je m'en...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
D'écoute!
Oh,
de Chiz 94.3, Requin Chagrin, avec la pièce Première Vague.
Gabriel est en formation aujourd'hui, vous le savez.
On t'a rien de lui apprendre comment ça fonctionne.
Pour les pitons collent, ça m'énerve. Mais voilà. Écoute, Félix-Antoine, t'as un segment pour nous.
Oui, je voulais revenir parce qu'on a passé la fameuse Thanksgiving American. Mm-hmm. Les Américains.
Les Américains.
Les Américains.
Les dindes avaient l'air bonnes. Oh, ça avait l'air très, très bon. Sérieux?
Il n'y a rien qui a l'air moins appétissant qu'une dinde dans.
Pour vrai, vous aimez pas ça?
J'ai jamais goûté une dinde pas sec dans ma fin de vie.
J'ai jamais goûté une dinde point. Donc, ça fait 20 ans, je n'ai pas mangé une dinde. Parce que pas.
Du poulet juteux, j'en ai mangé beaucoup. La dinde juteuse, jamais touché ça. Jamais vu ça.
Je comprends pas, Gabriel, les dindes ne se rendent pas à Donnacona ou.
Non, mais je suis végétarien, c'est-tu.
Ah, t'es sérieux?
Je mange pas de viande.
Non, mais t'as pas été végétarien toute ta vie.
Non, mais des dindes, je les mangeais ça quand j'étais kid. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de dinde, mettons.
Mais c'était quoi ton impression des dindes quand t'étais jeune?
C'est pas mémorable, visiblement.
Visiblement. C'est
ça. T'as pas écrit ça sur ton Skyblog à 13 ans?
Non. Non? Skyrock dinde. Turkey blog.
Donc, le Thanksgiving américain, on niaise beaucoup, mais c'est une date vraiment importante dans la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce que depuis la saison 2005-2006, 76% des équipes de la Ligue nationale de hockey qui sont en série à cette date-là restent en série. C'est-à-dire que plus souvent qu'autrement, le classement que tu vois à cette date est celui sur lequel tu peux te fier, du moins pour qui va être en série et en grande majorité pour la fin de l'année. Même, c'est Mark Richie qui écrivait dans un article sur LNH.com.
Mark Richie ou Mike Richie?
Richie, R-E-C-C-H-I, là?
Mark Recchie.
Recchie, excuse-moi. Ouais. Bon, je sais pas prononcer.
Déjà joué pour le Canadien de Montréal.
En plus. Hey, Hall of Famer, Mark Recchie.
Oui, et il parlait justement de ça, de son époque quand il était entraîneur avec les Penguins de Pittsburgh. Mm-hmm. Puis il disait, c'est une date dont tout le monde parle, tout le monde le sait, tu veux être en série. C'est vraiment considéré, même dans les cercles d'entraîneurs de la Ligue nationale de hockey, comme une date importante. Et on a plusieurs surprises qui en sont sortis. Notamment, bon, on le sait, là, les fans du Canadien doivent surveiller ça en se lichant les babines, mais les Panthers de la Floride, qui n'étaient pas en série lors de Thanksgiving, les Sabres de Buffalo, qui avaient commencé la saison en feu, ne l'étaient pas non plus, les Capitals de Washington, qu'on ne reconnaît pas.
Club de la FADOC, là, on va se le dire.
Exactement, les Penguins de Pittsburgh, les Oilers d'Edmonton, qui étaient en sortie des séries à ce moment-là. Du côté du Wild du Minnesota aussi, on n'était pas. Évidemment, certains de ces clubs en ce moment y sont, mais je vous le dis, cette date-là, elle est fatidique pour une raison. Et ça pourrait créer beaucoup de surprises si on touche vraiment là, le 77% de réussite habituelle. Mm. C'est un classement qui va en surprendre plusieurs. Et là, l'autre chose qui est intéressante, parce que bon, évidemment, on parle beaucoup à des fans du Canadien et je me proclame pour ce segment fan du Canadien.
T'es-tu un fan?
Ouais.
Ça dépend des moments. Il y a des fois où je suis très analytique. Là, pour les quelques prochaines minutes, je me mets en mode fan.
T'es pas un fan, t'es un fanadien. C'est comme l'hybride entre un fan moindrement brillant puis le fan.
C'est comme une mule, dans le fond. C'est comme un âne puis un.
Je me considère comme un fan très analytique. Tu sais, stats avancées,
etc. C'est pour ça que t'es pas un fan.
Non,
t'es,
non.
OK. Alors, pour rationaliser. Quand le Canadien gagne, t'es content, bonne équipe. Quand il perd, t'es content aussi parce que tu veux avoir le premier choix.
Exactement.
Est-ce que tu utilises le « on » pour parler du Canadien? On a bien joué hier.
Oui, ça, okay. Je suis à 100% fan là-dessus. J'utilise le « on » sans aucune gêne.
Alex Pimon va préparer un bulletin, un examen à savoir si vous êtes des fans ou non.
Oh, c'est bon,
une des émissions plus tard. Pendant le temps des fêtes.
Et donc, ça pour dire, le repêchage de cette année est considéré par plusieurs analystes et les statistiques avancées, je pourrais y revenir une autre fois, comme le meilleur repêchage depuis 2003, repêchage légendaire. Mm-hmm. C'est spectaculaire la qualité, là, parce que oui, il y a des stats avancées pour évaluer la qualité et le pourcentage de chances qu'un prospect soit une vedette dans la Ligue nationale de hockey. Je vous en reparlerai certainement un jour. Et le Canadien, présentement, pourrait, à son choix, parce qu'il y a le choix des Flames de Calgary qui nous appartient si on le désire et qu'ils sont dans les séries. Mm. On peut pas prendre le choix si c'est un choix de loterie, on peut prendre le choix s'ils font partie des séries. En ce moment, si le Canadien décidait de prendre le choix des Flames de Calgary, dans un scénario, comprenez-moi bien, où ils sont éliminés en première ronde, parce que c'est la pire équipe qui est en série présentement, les Flames de Calgary, on aurait le 17e choix au total du prochain repêchage. On aurait le 15e choix au total du prochain repêchage.
Celui des Panthers.
Celui des Panthers de la Floride. Et le 14e choix au total du prochain repêchage, soit le nôtre.
OK, on joue à NHL ou une plateforme de simulation quelconque.
Allons-y.
Okay. Est-ce que vous échangez deux de ces trois choix-là pour un top 10?
Oui.
100%. 100%, 100% du temps.
Parce que le draft est excellent, ça va coûter cher à s'avancer, peut-être plus que deux.
Ouais, ou peut-être un autre élément, un prospect quelconque.
Un prospect mineur, Heinemann, un choix de deux.
Bon, Heinemann, lui, on le passe partout.
Il s'est passé dans tous les échanges, Heinemann.
Ben, Oliver Kapanen.
Non, c'est sûr que ça vaut la peine. Puis, encore une fois, là, je m'éterniserai pas là-dessus parce que ce sera sûrement le sujet d'une autre chronique.
Oui.
Mais les analystes de chance, de succès, des prospects de draft classent vraiment. Bon, oui, effectivement, là, sans contredit, il y a Connor Bedard, il y a Adam Fantilli qui sont au sommet.
Matvei Mechkov.
Ouais, lui, il risque de descendre à cause du fait qu'il va arriver tard.
Puis c'est un Russe.
Ouais, ben, ils sont
négligés par le fait que peut-être qu'ils viennent pas tout de suite là aussi.
Ben c'est ça, il a signé, lui c'est confirmé là, il a signé un contrat de plusieurs années, fait qu'il sera pas là avant 3-4 ans après son repêchage.
Après, regarde à quel point c'est payant pour un club comme le Wild d'avoir attendu quelques années.
100%. Donc, dans le sommet, il y a 8 joueurs qui sont, selon toute vraisemblabilité, absolument presque certains de devenir une vedette dans la Ligue nationale. Donc, top 10, je saute là-dessus s'ils me demandent deux choix, là, sans aucune hésitation. 3,
mettons 14-15 pour le 8.
100%, sans aucun doute.
Mais c'est un bon échange. Et si tu es l'équipe qui reçoit cette proposition-là, tu dois la prendre parce que...
Surtout si c'est un autre premier choix. Si c'est un club en reconstruction.
Exact. Tu as deux premiers choix qui sont annexés à ça.
Ouais.
Puis on peut te donner Iron Man avec ça. Là. Ben, ben fin.
Tu sais, Justin Barron.
Ou t'as Justin, l'as-tu patiné? Oh, qui
Justin
patine.
Justin Barron, ouais.
C'est une équipe, je sais pas, comme les Sabres de Buffalo là,
qui ont déjà une tonne de prospects
qui
à
ont
base,
déjà une base solide puis qui sont peut-être prêts à avancer plus vite. Ben ils disent on est mieux peut-être de prendre deux choix
en échanger un peut-être pour aller chercher un joueur à la place.
Ouais, il y a peut-être quelque chose.
Ben, y a quoi faire.
Non mais dis dans le sens de dire deux choix, ben on va développer plus long terme, il y a pas de panique, il y a pas de presse, on a déjà nos jeunes joueurs qui sont
placés. Ouais.
En tout cas, je sais pas. J'essaie de voir là, en regardant le classement. Mais c'est très intéressant. Puis le choix des Flames de Calgary, dans ma tête, quand on a eu les conditions, c'était certain que tu le prenais pas cette année. Parce que si les Flames étaient bons comme ils étaient supposés l'être, c'était un 26e, 27e choix.
Mais là, la sauce colle pas pantoute. Elle reste pognée dans le fond du chaudron. Là.
Fait que si t'as le premier choix d'une équipe qui a fait les séries éliminatoires dans le repêchage, soit le 17e au total, ouais, là, t'es... Tu te poses la question, est-ce que t'attends en espérant qu'il soit encore plus mauvais dans une ou deux années? Parce qu'il y avait comme un... J'avais calculé là, le choix idéal, le scénario idéal pour le Canadien dans ce repêchage-là, puis c'était soit c'est 2024 ou 2025, je m'en rappelle pas, mais que les Flames soient la pire équipe cette année-là.
Parce que là, les Flames pourraient s'être creusés eux-mêmes une tombe au niveau contractuel salarial avec Kadri, avec Huberdeau. Qui qu'on a d'autre qui a des gros contrats dans cette équipe-là? Il y en a plusieurs. Là.
En FN 4. 5. Wigger, pas si pire. Wigger, je pense que c'est un 2.5 ou 3. Ouais, une affaire, il est pas si...
Non, ben c'est quand même des joueurs qui ont un âge avancé, à part notre cher Anifil.
Il y a Elias Lindholm à 6 millions. Ouais. Hein, ces gars-là,
donc, j'ose croire que Huberdeau, il est pas fini. Là. C'est un
en ce moment, c'est clairement la manière de le coacher.
Ouais.
T'as Lucic avait un gros contrat aussi.
Mais ça se termine cette année.
Qui va être acheté, ça finit. Et t'as Blake Coleman à 3.5. Genre quasiment 4 millions. Tu sais, pour un grinder qui est juste bon en série, là, ça coûte cher.
Hey, parlant de repêchage, le débat qui enflamme la communauté Twitter du Canadien de Montréal dans la dernière semaine. Sean Monahan.
Ah, il faut lui faire signer un nouveau... Non, c'est pas vrai.
Hey, j'étais prêt là, à me battre. Mais la communauté se déchire là.
C'était prêt à se battre, lui, là.
Avec mes mots, le crayon est plus fort que l'épée, hein, comme il dit.
La plume.
La plume.
C'est l'exemple parfait de l'émotion qui prend le dessus sur le rationnel.
Parce que c'est ça, là, pour mettre en situation. Si
ça, c'est des fafans.
Oui.
Mettons en contexte, là, il y a la communauté s'entre-déchire en ce moment. À savoir, parce que Sean Monahan, selon toutes les rumeurs, prend de la valeur de façon très importante
au sein
des équipes.
Il mérite de prendre cette valeur-là aussi.
Oui,
là.
Parce qu'il risque d'atteindre une saison de 50 points au rythme auquel il va.
Il a bûché fort, Sean.
Il est intéressant, surtout pour un Canadien qui peut facilement, avec sa masse salariale actuelle, garder le 50% de salaire.
Tout à fait.
Il y a quoi de très intéressant. Et il y a de plus en plus d'observateurs qui pensent réalistiquement que le Canadien peut obtenir un choix de première ronde contre Sean Monahan.
Donc, on aurait eu deux choix de première ronde pour notre cher Sean.
Ce serait hallucinant. hallucinant, mais il y a une grande partie des fans du Canadien qui veulent signer à long terme un gars qui a 28 ans, revient de plusieurs blessures, a été blessé chroniquement au long de sa carrière.
A des hanches en teflon.
Ouais. Et qui pourrait nous rapporter un choix de première ronde dans le meilleur draft de l'histoire de la Ligue nationale, probablement, ou un des meilleurs drafts de l'histoire, selon les prédictions qui s'en viennent.
Et de la manière que le classement évolue, il pourrait avoir un marché d'acheteurs et non de vendeurs à la date limite des transactions, ce qui ferait monter le prix incroyablement pour les joueurs.
C'est hallucinant. Fait que je suis content, on n'aura pas un débat là-dessus apparemment, là, parce que c'est vraiment j'avais le goût de m'obstiner, j'ai dit, je me sentais tannant, là, je voulais m'obstiner avec quelqu'un, mais tout le monde est d'accord, fait que c'est correct.
On est trop lucide.
Il y a vraiment ce gros débat qui fait rage, il y a du monde qui dit, on a trouvé notre deuxième centre, faut plus se poser de questions, faut le signer, mais le Canadien n'est pas encore rendu, là, malgré tout ce qu'on voudrait bien croire, là, le Canadien est encore à facilement 3-4 ans de pouvoir compétitionner pour une Coupe Stanley.
Le match d'hier était tellement typique d'une équipe qui jouait au-dessus de sa tête et qui jouait juste un match normal, mais une équipe comme le Canadien ne peut pas jouer seulement un match
d'ailleurs
normal.
Nick Suzuki, je vous en ai parlé là, de sa statistique là, le on-ice shooting percentage là, que les joueurs autour de lui combien ça tire pour expliquer que
la correction qui s'en vient.
Elle est en train de commencer. Elle a commencé tranquillement, elle est pas énorme là, mais tu vois déjà il y a un analyste Twitter il est sur Twitter, okay. Mais il y a un site de statistiques avancées d'analyse qui est utilisé d'ailleurs par certaines équipes de la Ligue nationale de hockey. Okay. Et il a fait un graphique qui montre la statistique de on-ice shooting percentage et où on est dans la saison, avec plusieurs des joueurs qui ont commencé dans les dernières années à des rythmes qui ne se tenaient pas, comme Ovechkin l'an dernier, qui était un bon exemple de ça. Et à cette date-là, ils sont tous en train de descendre. Et t'as Nick Suzuki qui est justement en train de descendre la pente tranquillement. Puis c'est pareil, presque pour tous les joueurs dans cette statistique-là. Donc ça va être intéressant.
On dirait que tu souhaites du mal aux Canadiens.
Non, mais c'est juste que je trouve que Nick Suzuki est exceptionnel cette saison. Mais je comprends que c'est pas encore un joueur de 90 points.
Non, clairement. Puis on
pas encore.
Moi, je pense qu'il peut le devenir. Très certainement.
Mais il n'y a pas une inflation des points cette année un petit peu dans la Ligue nationale?
Ouais, peut-être.
Parce que le nombre de joueurs qui ont 1.3, 1.4 points par match est énorme. Là.
Surtout qu'on a, encore une fois, là, quand tu prends notre âge relativement commun, grandit dans l'époque la plus défensive de la Ligue nationale de hockey là, depuis longtemps, où les gardiens dominaient.
Où un joueur faisait 80 points et
qui avait gagné le Hart Trust avec exactement un point par match, une saison, c'est absolument gênant. Martin Saint-Louis qui avait gagné avec la saison raccourcie avec à peine un point par match. Mais là, on est dans une époque effectivement où toutes les équipes ont un joueur d'un point par match facilement.
Et tant mieux parce que ça fait du jeu excitant comme le Kraken et les Kings.
C'est fun. 17 buts marqués hier.
9-8
en overtime.
Victoire du Kraken de Seattle.
Une game plate de football, mais une bonne game de soccer, de hockey.
Et là, on s'éternisera pas là-dessus, mais Matty Berniers.
Quel joueur
de hockey. Oh. Il a en plus les traits d'un classique gars qui dit « Moi, je joue au hockey ». Ouais. Moi, je suis un joueur de hockey. Ça, c'est Matty Berniers.
Est-ce qu'il y a une coupe Longueuil?
Oui. Elle est pas Longueuil, mais il a le classique cheveux longs.
Oui,
le gars qui a joué à Michigan.
Ouais, à flot.
Tu sais, bouclé long arrière, tout le temps. Ils sont tout le temps mouillés, ses cheveux.
Ouais. Ben oui.
Ouais. En sortant de la douche, à midi et demi, à 3h15 aussi.
Comme un temps, le WWE. Toujours les cheveux mouillés.
Il y a une gueule de Rital aussi. Il aurait pu jouer pour les Yankees s'il jouait au baseball, tu sais. Un Joe DiMaggio. Tu sais, c'est le genre de gars-là, tu sais.
Oh,
un peu
ça.
Condescendant. On l'aime beaucoup. Puis, en passant, le Kraken a 14 victoires, 5 défaites cette année. Quelle surprise. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils ont gagné leurs 6 derniers matchs. Puis, c'est entre autres, justement, au brio du trio de Matty Berniers, Jordan Eberle et Jared McCann. Non, mais ce trio-là, hier, 5 buts. Là.
Eberle a ramassé 4 points hier, je pense. Ouais. C'est pas la dernière fois dans sa carrière que Jordan est allé chercher 4 points dans un match.
C'est dans le temps des Oilers.
Hein. Ouais, ça.
Mais quand on veut parler d'équipe impressionnante, là, les Bruins et les Devils, qui sont à plus de 80% de points récoltés depuis le début de la saison, c'est hallucinant. Les Bruins qui n'ont pas perdu à domicile encore.
Les Bruins hier qui ont museler le Lightning comme si c'était une équipe de fond de tableau. On gagnait un vieux 3-1, une main dans le dos. C'est fou, là. C'est fou, la qualité hockey
mais c'est
que cette équipe-là est capable d'atteindre.
Les Devils et les Bruins sont dans une ligne à part. En ce début de saison, évidemment, là, tout peut toujours se corriger, là, mais c'est impressionnant de les voir aller. S'ils se retrouvent en finale de l'Est l'un contre l'autre, là, on va avoir quelque chose d'assez... Comme fan de hockey, comment ils jouent présentement, tu peux pas vouloir autre chose qu'une finale de l'Est Devils contre Bruins. Ce serait... ahurissant comme match de hockey.
Juste avant qu'on passe à l'unboxing de cartes, on a des résultats live de la Coupe du monde de soccer de la FIFA présentés au... Ça, on le dira pas. Alors, c'est le groupe C qui en vient à une conclusion. L'Argentine qui mène 2-0 contre la Pologne de Robert Lewandowski. Et le Mexique qui mène également 2-0 contre l'Arabie Saoudite qui, on vous le rappelle, avait surpris l'Argentine lors du premier match du mondial de ce groupe.
Là, est-ce que ça va dire que les deux équipes qui étaient plus fortes que nous de la CONCACAF, qu'on a battu pour se qualifier, vont passer?
Alors c'est la twist en ce moment.
Ouais. Ah, c'est fort.
Même si la Pologne est en train de perdre 2-0, eh bien, elle se qualifierait tout de même pour la ronde des 16 et ils ont les mêmes barèmes, les mêmes buts pour, buts contre, bon, et donc différentiel de buts, le même nombre de points que le Mexique, parce que le Mexique a plus de cartons jaunes.
Oh, ça, c'est gênant. Ça, c'est fâchant.
Mais c'est tellement mexicain.
Oh, oui. Ça serait fâchant.
Alors, on est à la conclusion de ces matchs-là. On va vous tenir au courant que ces matchs devraient se terminer avant la fin de l'émission.
On est dans les arrêts de jeu pour les deux matchs. Là.
Exactement.
Oui. Le Canada joue demain, c'est ça, hein?
Canada joue demain matin à 10h. Alors, les enjeux sont qui va se qualifier entre la Belgique, la Croatie et le Maroc. Le Maroc et la Croatie sont nettement favoris là, avec le différentiel des buts et déjà le nombre de points. Alors, mondial raté pour la Belgique là, pour l'instant. Oui.
Avec une petite victoire, puis le Canada qui décide de jouer trouble fête, on pourrait.
Donc, demain, on écoute ça, ce match-là, au bureau.
Oui,
après.
Poste guignolé
des médias demain, de 7 à 9h.
Ben oui, en passant, on vous invite demain matin à la guignolée des médias. Nous serons aux arrêts d'autobus de l'Université Laval là, entre 7h et 9h.
Tout à fait.
Oui.
On récolte des dons aussi par PayPass. Donc, 5
piastres. On a mis une cagoule sur la face à Gab.
Oui.
Tout va bien.
Tout est beau. Je serai incognito. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est pas grave. J'embarque dans le délire.
C'était une mauvaise blague, mais personne n'a embarqué, c'est correct.
On déballe.
Je ne suis pas en désaccord de Cache Gab, mais je me demandais si je disais la raison ou non. Pourquoi. Alors, il n'y a aucune raison en passant, Gabriel. Est,
mais non, on l'aime d'amour.
Il est un citoyen exemplaire.
Plus que toi, en tout cas. Mon ton propriétaire de VUS, toi. Ah, oh, tu l'ouvres-tu ton paquet de cartes?
Alors, oh, je pense qu'on a une carte spéciale en arrière. Oh, est-ce qu'on vient de voler le million?
Félix
Antoine. Alors, on commence avec... alors, je vous rappelle qu'il n'y a seulement que 3 cartes dans ces paquets.
Les paquets de Tim Hortons, c'est juste 3 cartes. Hein. Son radin, hein?
J'allais pas lui donner quelque chose qui avait de la valeur. Là.
Alors, on a... le fameux Carter Hart, gardien de but des Flyers de Philadelphie.
C'est un autre qui est dans le club de Jeff Skinner qui lance une pièce de monnaie au début de la saison.
Une bonne saison. Sûr que je fais 10 blancs cette année ou pas pantoute, puis une moyenne de 4.
Et cette année, j'ai l'impression qu'il se mange 2-3 regards louches de John Tortorella après les matchs. Ça doit pas être un environnement le fun à
faire peur à n'importe qui.
Les Flyers ont bien commencé l'année, là, en tout cas.
Oui. Puis ils sont devenus l'équipe qui était supposée.
Ouais, c'est, voilà, c'est
et le prochain qui, selon moi, est le plus beau joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey.
Hein?
Maurice Seiler.
Ah, crime.
Qui est beau, j'ai pas vu.
Mais la manière, son style de patin, la manière qu'il bouge
moi,
la rondelle.
Je pensais vraiment à son visage.
Mais aussi
il répond à certains standards de beauté.
Exactement. Maurice Seiler est un... Il est peut-être un sex-symbole en devenir dans la Ligue nationale de hockey.
En Allemagne.
Acceptable.
En Allemagne,
oui.
Et on a une carte spéciale, Superstar ou Étoile, parce que les cartes sont en français et anglais. C'est en vedette Austin Matthews.
Édition des séries.
Comment on sait si ça vaut de l'argent, cette affaire-là?
On va sur les sites qui sont spécialisés dans les reventes de cartes.
Tim Hortons.ca.
Je suis curieux à mot.
Mais on a c'est une très belle carte là, qui est dorée et argentée d'Austin Matthews.
On peut dire holographique hein, dans le terme des cartes de hockey, dans le jargon des cartes.
Foil. Comme dans le temps quand vous avez des petites cartes Pokémon.
Oui.
Alors c'est un unboxing qui bon, satisfaisant.
Austin Matthews, on lui souhaite beaucoup de succès.
Il est rentré dans sa saison, je pense, Austin.
Ouais, il reste à rentrer dans les séries.
Ou en deuxième ronde des séries.
Oui, c'est ça, c'est plus ça le défi. Hein.
Et le scénario n'a toujours pas changé dans ce groupe C de la Coupe du monde de soccer. Les scores sont identiques pour l'instant. Alors, on est à la 90e plus 4 entre le Mexique et l'Arabie Saoudite, toujours 2-0. Alors, le Mexique aurait besoin que la Pologne...
pogne un carton jaune, quoi.
On va le dire comme il faut le dire. Pogne un bon vieux carton jaune.
Ah, c'est vraiment fascinant. Après, le Mexique va trouver le moyen de chialer.
Mais le match entre la Pologne et l'Argentine est terminé.
Oui, tout à fait.
Alors, j'ai bien l'impression qu'on peut annoncer que finalement, l'Argentine et la Pologne passent au prochain tour. Alors,
dans le groupe C.
Dans le groupe C.
Monsieur Messi va-t-il remporter une Coupe du Monde?
En terminant premier du groupe, se positionne extrêmement bien parce que le gagnant du groupe C, bon, évidemment, va affronter un deuxième là, d'un autre groupe. Ouais. Alors, extrêmement bien positionné. Peut-être mieux que le Portugal de Cristiano Ronaldo.
Notre Austin Matthews vaut 6 $ canadiens.
Hein?
C'est à toi.
Vas-y, prends-la. Hey.
On rappelle les matchs pour la Coupe du Monde demain, Croatie-Belgique à 10h AM. Évidemment, Canada-Maroc aussi à 10h AM. Dans le groupe E, il y a Japon-Espagne à 14h. L'Espagne qui est déjà qualifiée à moins de... Je pense qu'ils sont déjà qualifiés. Et Costa Rica-Allemagne aussi à 14h.
Il y a un coup à jouer dans ce groupe-là. Ouais. L'Allemagne a seulement un point. Ouais. Pourrait tout de même se qualifier. Le Costa Rica qui est allé chercher une victoire là, contre le Japon. Mais bravo, Costa-Ricain. Ouais. Bravo. Et quand on parlait d'expérience de Coupe du Monde, ben, c'est un excellent exemple.
Les Los Ticos.
Les Los Ticos ont participé aux 3 derniers mondiaux ou 4 derniers mondiaux. Ils ont des joueurs vétérans qui ont participé à 2 ou 3 mondiaux dans cette équipe-là. Et après avoir mangé une volée de 7-0 contre les Espagnols, contre l'Espagne, ils sont allés chercher une maigre victoire de 1-0 contre les Japonais qui venaient de battre les Allemands.
Ouh, quand même.
Alors l'expérience a servi
Costa Rica. Les Japonais peuvent-tu encore passer
Oui, les Japonais sont deuxièmes de ce groupe-là.
Après le Canada, je prends pour eux cette année. Là.
Parce que t'as un cours de japonais de soir, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, non, mais il y a une série que j'écoute, là, je me perdrai pas vite, là, il reste pas beaucoup de temps. Y a une série que j'écoute sur le soccer en animé japonais. Puis le Japon l'a utilisé dans la publicité de son équipe. Puis c'est tout plein de memes sur Internet en lien avec ça. Je trouve ça absolument hilarant. Bon ben... J'adore ça. Fait que je Blue Lock, Japon, ceux qui savent.
Parfait. Yes.
Arigato.
Arigato gozaimasu.
C'était tout ce qu'on avait pour Conduite Antisportive aujourd'hui, édition du mercredi 30 novembre. À la semaine prochaine!
Yamataraishu.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
En passant par des films marquants de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
On est là pour discuter et donner nos impressions sur de multiples sujets, mais surtout pour t'apprendre des fun facts sur le monde créatif qui t'entoure et que tu te couches moins niaiseux.
En passant par des scènes marquantes de films aux paroles de chansons remplies de meaning, Pop Analyse, on est une émission où on décortique des œuvres créatives et les nouvelles du monde de la pop.
Allô tout le monde, c'est Mathieu Dufour, fier porte-parole de l'Opération Nez Rouge. C'était impossible de faire une pub radio sans que je fasse une chanson, fait que ça part! Mario est bagorlo, José est sur le party, Robert y voit plus clair, y'a personne qui peut chauffer. Le Carole à bénévole qui débarque en fin de soirée pour les raccompagner en toute sécurité. 1-866 Desjardins! Faites-moi confiance, la gang, venez l'essayer. Opération Nez Rouge, là, vous pourrez plus vous en passer. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec.